Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand incontournable du nord de l'agglomération angevine. Je suis Cody, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Dans cette émission, vous aurez le plaisir d'écouter un conte de fées créé spécialement par Véronique et Delphine dans la chronique Le bonheur est dans les simples, qui nous parlera de plantes tinctoriales. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à remonter dans le temps jusqu'au Carbonifère. Nous partons à la rencontre d'un autre groupe de plantes qui a colonisé la Terre bien avant nous, le groupe féerique et gracieux des fougères. La famille des fougères est souvent évocatrice de forêts mystérieuses et énigmatiques, au sol tapissé de frondes soyeuses, ou encore de forêts tropicales denses et ombragées, au feuillage luxuriant. Cette image me donne l'occasion de faire un aparté sur l'imaginaire lié à la jungle. Car lorsque l'on parle de jungle, nous avons facilement à l'esprit l'image d'un monde hostile, où la compétition est poussée à l'extrême, chaque être vivant, luttant les uns contre les autres. Or, la réalité du monde naturel s'avère être tout autre si l'on prend le temps de l'observer. La réalité est que la nature a horreur du vide et que tout espace, ou même tout être vivant lui-même, peut devenir un habitat propice à de nombreuses autres espèces. L'exemple des arbres illustre tout à fait cette coopération entre les espèces. À chaque étage, du sol aux branches les plus hautes, s'installent des espèces différentes. Mousses, champignons, insectes, oiseaux, mammifères, qui viennent y trouver refuge, nourriture, protection, confectionner un nid pour se reproduire ou tout simplement rechercher de la compagnie. Pour revenir à la jungle, le fait d'hiver récent qui s'est produit en Colombie témoigne d'une vision tout autre qu'une lutte acharnée entre les espèces. Trois enfants escapés d'un crash aérien dans la jungle ont survécu en se constituant de cabanes de branchages et en se nourrissant de baies sauvages. L'armée, n'arrivant pas à les repérer dans la végétation, a fini par faire appel aux Amérindiens pour les aider dans leurs recherches. Le coordonnateur amérindien témoigne. Les matins commençaient par une prière aux ancêtres. Il fallait d'abord avoir la bénédiction de la forêt pour qu'elle s'ouvre et que nous puissions ainsi avancer. Une fois les enfants retrouvés, un peu apeurés et déshydratés, il poursuit. Tout le monde se serrait dans les bras, tout le monde pleurait. Nous n'arrivions pas à croire qu'ils étaient vivants après tant de jours. C'était une joie indescriptible. La forêt avait veillé sur nous. Cet hommage à la forêt protectrice est là pour nous souvenir des liens qui unissent les êtres humains à la nature, liens fondés sur l'harmonie et l'entraide. La loi de la jungle prédatrice et destructrice est celle inventée par les hommes, qu'on se le dise. Allez, il est temps de poursuivre notre voyage extraordinaire dans le temps pour découvrir la grande famille des fougères à l'époque des forêts marécageuses du Carbonifère, c'est-à-dire il y a plus d'un quart de milliard d'années, une époque lointaine où les humains n'existaient pas encore. Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes sur Radio G 101.5 FM. Nous partons aujourd'hui à la rencontre des plantes les plus anciennes de notre planète, celles des forêts du Carbonifère, il y a 350 millions d'années. Plantes compagnes des prêles, les fougères ont aussi connu leur apogée dans les forêts humides et marécageuses du Carbonifère. Les premiers grands animaux terrestres s'abritent volontiers sous leur ombrage. Les fougères exotiques actuelles, dont la beauté graphique est magique, restent très proches de leurs ancêtres de l'ère primaire. Elles disposent d'un système vasculaire, ce qui les rapproche des plantes à fleurs, appelées aussi phanérogames. Dépourvues de graines, elles appartiennent donc au groupe des plantes vasculaires sans graines. Plantes sans fleurs, elles font partie, comme les mousses et les champignons, des plantes cryptogames, ce qui signifie littéralement noces cachées, car la phase sexuée des fougères est très peu visible du fait de la petite taille des organes sexués. La germination des spores de fougères donne naissance à un organe de quelques millimètres appelé protale, qui porte à sa face inférieure les organes mâles et femelles microscopiques. De leur fécondation, naîtra la plante sous sa phase asexuée. La reproduction des fougères s'effectue ainsi en deux phases distinctes par un processus particulier de cette famille que l'on nomme alternance des générations. Ainsi, la plupart d'entre nous ne voyons des fougères que la phase asexuée. La tige se résume à un court rhizome enfoui dans le sol, d'où émergent des frondes aux formes plus ou moins ramifiées et dentées selon les espèces. Au départ, se dressent des crosses qui se déroulent et étalent les frondes et leurs ramifications. Toutes les fougères naissent ainsi, en déployant leur feuillage comme on enfile un gant. Les aspléniums présentent par exemple un limbe entier, alors que les fougères mâles et femelles ont un feuillage très ramifié. Dans les régions tropicales, les morphologies sont plus variées. Certaines fougères arborescentes dépassent les 20 mètres, alors que d'autres sont épiphytes et poussent sur les arbres. À la fin de la saison, les feuilles se couvrent de pustules oranges à leur face inférieure. Ce sont les sporanges qui libèrent à maturité les spores. Dans nos régions, la fougère est souvent associée aux habitats ombragés comme la forêt. En parlant de forêt, nous allons retrouver Véronique qui nous propose un conte écrit par elle. Écoutons-la.
Le secret de la fougère éternelle. Il était une fois, dans une contrée lointaine, une forêt verdoyante bercée par la magie de l'ancien monde celtique. Au cœur de cette forêt, chaque plante, chaque arbre, chaque pierre possédait une âme et une histoire. Mais parmi toutes ces merveilles, une fougère se démarquait par sa splendeur et son mystère. On l'appelait Falan, ce qui signifie « petit loup » dans la langue des anciens. La fougère n'était pas ordinaire. Elle scintillait sous les rayons de la lune, émettant une lueur douce qui guidait les âmes perdues à travers la forêt. Les anciens racontaient que Falan était né du souffle d'une déesse celtique qui, touchée par la beauté du monde, avait voulu laisser une trace éternelle de sa présence. La fougère était le symbole de la renaissance, de l'immortalité et de la protection spirituelle. Un jour, une jeune fille du nom de Hélin, intriguée par les histoires que racontaient les anciens, décida de partir à la recherche de Falan. Elle voulait voir de ses propres yeux cette merveille et comprendre le pouvoir qui en émanait. Hélin parcourut la forêt pendant des jours et des nuits, suivant les murmures du vent et les chants des oiseaux. Finalement, sous un clair de lune, elle trouva Falan dans une clairière rayonnant de sa lumière mystique. S'approchant doucement, Hélin posa sa main sur Falan. À cet instant, une connexion profonde s'établit entre la jeune fille et la fougère. Des visions du passé, du présent et de l'avenir envahirent l'esprit d'Hélin. Elle comprit alors que la fougère était le gardien des souvenirs du monde, capturant chaque moment, chaque émotion pour l'éternité. Hélin, emplie de gratitude, décida de consacrer sa vie à protéger Falan. Elle devint la gardienne de la fougère et du sanctuaire de la forêt. Les années passèrent et la légende de la fougère éternelle et de sa gardienne se répandit dans toute la contrée. Et même aujourd'hui, si vous vous perdez dans la forêt celtique, cherchez la lueur de Falan, car elle vous guidera et vous protégera, tout comme elle l'a fait pour tant d'autres avant vous. Ainsi, la fougère demeure le symbole de la mémoire éternelle, rappelant à chacun de nous l'importance des souvenirs et des connexions spirituelles qui nous lient au monde qui nous entoure.
La flore française compte environ 110 espèces. La flore française métropolitaine compte environ 110 espèces, alors que la Nouvelle-Calédonie en abrite plus de 2000. La beauté exubérante des espèces tropicales a conduit à la production de nombreuses fougères comme plantes d'appartement. Cultivées sous serre, pour reproduire leur milieu d'origine, elles sont devenues familières de nos intérieurs, à l'exemple des aspléniums ou de la fougère corne de serre, du nom de genre Platycerium. Dans les jardineries, de nombreuses espèces sont proposées pour agrémenter les massifs extérieurs plutôt ombragés. Dryopteris, Matthesia, Osmonde royale, Asplenium. Ces plantations sont toutefois maniées avec précaution car certaines espèces s'installent pour toujours et peuvent même devenir très envahissantes. Cependant, si vous prenez l'habitude de bien tapisser vos massifs de feuilles mortes et de conserver les feuilles au pied des arbres, vous aurez peut-être un jour la surprise de voir un jour de petites crosses émerger du tapis feuillu. Sans compter que de nombreuses autres espèces colonisent volontiers des habitats différents comme les murets, les étangs, les zones humides. Le travail du jardinier devient plus simple. Il consiste à préparer les habitats permettant leur installation spontanée. Vous pouvez aussi choisir de vous promener dans les bois, comme ceux du domaine de Boudré, qui offrent aux visiteurs de magnifiques tapis de fougères sous les conifères. Allez, je vous invite à une pause musicale en clin d'œil à ma sœur, qui m'a soufflé l'idée de cette chanson, bande originale du film Le Chêne. Et si tu restes, de Tim Dup.
J'ai marché sur la mousse à tes pieds nus, mon frère. J'ai senti les secousses, elles montaient singulières. Une sieste contre toi, adossée à l'écorce de mes maigres dix doigts. J'ai puisé de ta force dans les ombres et les nuits, les orages et la neige, sous les troncs de pluie, quand la chaleur fait siège, quelles que soient les couleurs, les saisons, les contours, de la sève à tes fleurs, tu poursuis sans détour et tu restes. Des allures de chapelle, tu as vu ce qui dure, ce qui est, ce qui passe, les craquements, les fêlures, la vie sous la surface, où s'éclairent les abris silencieux de l'automne, et la toile argentée de la nuit mycélium, les longs balais de jet. Sous les feuilles qui dansent, tout là-haut à la cime, le balancement des branches. Et tu restes. Je contemple les bananes qui dansent, et pourvu que les hommes sourient à l'évidence, car le temps s'habillait à rebours de nos villes, retrouver le tracé des aiguilles. Tu restes.
La prêle, la fougère et son feuillage généreux ont inspiré quantité d'usages aux humains. Séchées et récoltées, elles servent à emballer la marchandise, à isoler les toits, posés comme les chaumes, ou encore au rembourrage des matelas, qui deviennent confortables et très absorbants, surtout en cas de pipi au lit. Dans les étables, elles assurent une belle litière aux animaux. Au passage, beaucoup plus isolante et facile à manipuler que la paille. La récolte de fougères permettait aussi à l'époque de réguler les populations naturelles dans les prairies, car elles étaient toxiques pour le bétail. Les cendres de fougères, riches en potassium, servent à fabriquer du savon. L'utilisation industrielle pour le savon, la teinture jaune de la laine et les tanneries de cuir au XIXe siècle a contribué à réguler son extension dans les milieux naturels. Au jardin, les frondes constituent un paillage idéal pour les plants de fraisiers, par exemple, leur assurant protection et alimentation en potasse qui leur permettront de donner de bons fruits goûteux. Le purin de fougère permet d'agir efficacement et naturellement contre les limaces. En parlant de paillage, retrouvons la séquence interview pour nous en dire plus sur son usage en permaculture.
Bonjour Mathieu.
Salut Laura.
Alors, peux-tu nous parler de ton activité ?
Oui, alors moi je suis installé en maraîchage, ça va faire 6 ans. Petite surface, je me dis jardinier maraîcher. Je suis sur une ferme au bol d'herbe, d'Omray, où il y a une pépinière, des vaches transformation laitière, un paysan boulanger. Et moi, on vend directement nos productions sur la ferme, sur l'épicerie du bol d'herbe.
Ah, super, très bien. Alors, toi, dans ton activité de maraîchage, tu dois t'intéresser, j'imagine, au paillage. Et donc, c'est le sujet de ce jour. Alors, utilises-tu du paillage dans ton jardin ?
Tout à fait, tout à fait. J'utilise du paillage. La chance d'être sur une ferme. Donc, en fait, il y a de la paille et du foin qui sont pas utilisés par les copains à la ferme, donc que je peux réutiliser. Ça, c'est la source facile. Et puis ensuite, il y a je suis de mèche avec les paysagistes du coin et la commune pour la récupération des feuilles, des tontes de pelouse et bientôt on espère aussi le broyage des branches puisque on espère tout bientôt que les communautés de communes ne pourront plus brûler leurs déchets et qu'on espère être le bon endroit pour pouvoir remettre cette matière organique du caviar sur les parcelles et dans le système agricole.
Donc finalement, tu utilises pas mal de végétaux assez diversifiés pour pailler ton jardin. Et qu'est-ce que t'apporte ce paillage ?
Eh ben, ce qui m'apporte ce paillage, la première des choses, c'est un écran solaire. Puisque un sol à nu, agronomiquement, ça reste un sol qui n'est pas bien tenu. En tout cas, dans ma façon de jardiner et de faire du maraîchage. Donc, je protège. Ma première action, c'est de protéger le sol des rayons solaires. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et puis, ensuite, c'est de nourrir mon sol. Moi, je suis en bio, même si c'est pas le plus important, mais en tout cas, je nourris mon sol pour nourrir des plantes. Et que le paillage, c'est la base pour nourrir un sol qui nourrit une plante.
Donc, si je comprends bien, plus on paille son sol, plus on le nourrit, plus on diversifie les végétaux avec lesquels on le paille, et mieux c'est.
Tout à fait.
On peut pailler avec du foin, de la paille, feuilles mortes qui viennent du jardin, le gazon, et même ses déchets verts.
Déchets verts, ouais. Moi, je sais qu'aussi là où on est, on utilise notre compost. Ce compost-là, on le met pas en tas de compost parce qu'on trouve que c'est gâcher cette matière. On va directement le mettre sur nos planches, les planches de culture. Pour c'est à mon sens plus judicieux de répartir son compost ménager que de le concentrer à un endroit. Et ne serait-ce que pour les rats, ça évite qu'ils viennent tous au banquet de nos déchets de table.
Ah oui, donc en gros, je cuisine, j'ai mes déchets et je les place directement
à différents endroits, là où j'ai envie de gâter mon sol, où je pense qu'il y a besoin, où je trouve qu'il n'y a pas assez d'activité biologique et faune et flore sur un certain endroit. Et je vais le gâter en lui offrant mon compost, ouais.
Ok, super. Et est-ce que tu as déjà entendu parler du paillage avec de la fougère ?
Oui, j'en ai entendu parler. Alors nous, on est sur un terroir où on n'a pas de fougère, donc en fait, je l'utilise pas. Il faudrait que j'aille le chercher loin, et j'ai pas envie d'aller importer des matières qui sont trop loin de mon jardin. Après, je sais qu'il y a des collègues qui l'utilisent parce que sur leur parcelle, ils ont un accès à cette ressource. Mais je n'en dirai pas plus parce que je sais juste qu'il y a des copains qui le font. Moi, je ne le fais pas.
Donc en gros, tu nous conseilles de pailler avec les végétaux que l'on trouve à proximité. Ce serait
pour moi le sens commun invite à ça, ouais. Plus d'aller chercher les ressources qu'on approche de chez nous, et vraiment à savoir que pour tout un chacun, les paysagistes de partout aujourd'hui cherchent des endroits pour ne pas avoir à payer les déchetteries qui leur coûtent de l'argent. Donc en fait, si vous avez besoin et envie de mettre de la matière organique, le plus simple, c'est de contacter un paysagiste ou sa communauté de communes. Et vous serez un bon lieu de collecte de ces déchets, au lieu qu'ils soient brûlés ou mis en tas et compostés avec des grosses machines. Autant le faire tout un chacun proche de chez soi, ouais, je pense. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup Mathieu pour ces informations et à bientôt.
Ouais, merci. Salut Laura.
On sent la vapeur légère, déjà demain vin nouveau, qui, tout sortant du berceau, pétille dans la fougère et menace le cerveau. Comme l'illustre ce poème du XIIIe siècle, sur tous les continents et depuis les temps préhistoriques, les êtres humains consomment les jeunes crosses au printemps, car les feuilles âgées deviennent toxiques. Les crosses, très nutritives et au goût d'épinards et d'asperges, doivent impérativement être cuites avant ingestion ou laissées macérer 24 heures dans de l'eau additionnée de cendres de bois. Pour vous mettre en bouche, voici une petite recette printanière de crosse de fougère à la sauce au yaourt aux fines herbes. Après avoir ébouillanté successivement dans deux eaux différentes les crosses de fougère, comptez une dizaine de frondes pour une dizaine de crosses pour deux personnes, égouttez-les et réservez-les au frais. Puis, mélangez le contenu de deux yaourts de brebis avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive, de la ciboulette, du sel et du poivre. Mélanger avec les crosses de fougère et c'est parti pour une belle dégustation. Les fougères ont la particularité de stocker naturellement l'iode des sols, ce qui en fait un aliment utile en cas d'irradiation radioactive et très utilisé en Russie notamment. Allez, il est temps de retrouver la fougère pour son usage en teinture. Je vous invite à écouter la chronique « Le bonheur est dans les simples » avec Delphine pour nous parler de plantes tinctoriales.
Si aujourd'hui, nous parlions de cette plante que nous rencontrons tous lors de nos balades dans la nature, arborescente, exubérante au printemps, dans nos régions, mais surtout présente dans les régions méridionales où règne un climat doux. Vous savez, cette grande plante à feuillage vert luxuriant, qui peut être de grande dimension. Elle peut tapisser des sols. Sa mise en scène met en valeur la finesse et les détails des frondes. D'un vert lumineux sous les rayons du soleil, ses longues tiges, d'où s'élancent toutes ses feuilles fines et structurées. Et oui, il s'agit de la fougère. Il en existe plus de 9000 espèces. La plupart sont terrestres. On les trouve dans les fossés, sur les bords des chemins, au pied des haies, certaines aquatiques, et enfin d'autres épiphytes. Celles-ci se servent d'autres végétaux comme support. Près de 6000 espèces vivent dans les régions chaudes, mais les fougères sont capables, sous un climat tempéré, de coloniser des milieux humides et ombragés. Certaines espèces, telles la fougère aigle, apprécient les zones ensoleillées. Et si nous nous attardions plus précisément sur cette fougère aigle, cette grande fougère commune presque envahissante, on peut même la retrouver jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Même si elle aurait une préférence pour les climats doux, elle est assez cosmopolite. On la retrouve dans différentes régions du monde. Saviez-vous qu'avec ses jeunes pousses et ses rhizomes, nous pouvions fabriquer de la couleur ? Et oui, c'est aussi une plante tinctoriale. Qu'est-ce qu'une plante tinctoriale ? Qu'est-ce qu'une couleur végétale ? Certaines plantes possèdent des propriétés colorantes et furent pour quelques-unes précieuses et renommées en leur temps. Au Moyen Âge, les principales teintes utilisées pour teinter les tissus, la laine, furent la garance, la guêde, la gaude et le genêt. Aujourd'hui, d'autres couleurs végétales entrent dans la composition des encres, impressions textiles, les pigments végétaux, coloration des papiers artisanaux, coloration capillaire. Fabriquer une teinture végétale avec des plantes, comme les racines de la garance, nous permettrait de créer un rouge vif, la gaude du jaune, le pastel du bleu. Eh bien, en utilisant les jeunes crosses de fougères, elles donnent un jaune vert délicat par décoction. Ainsi, on peut colorer les fibres de laine, de tissu, comme la soie, le coton. Et en y additionnant de la colle d'amidon, il sera possible de créer une véritable peinture végétale pour le bois, le papier, le tissu, le plâtre. Les plantes n'ont pas fini de nous étonner.
Les motifs graphiques et décoratifs de fougères ont inspiré de nombreux motifs dans l'architecture. Au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, la découverte tardive de la richesse des petits rhizophytes ou fougères a donné naissance à une mode et à un engouement pour cette plante, la ptéridomanie. Des femmes, surtout de tous milieux, se sont mises à collectionner des plants prélevés dans la nature et des revues spécialisées publiaient des articles. De nos jours, la fougère est l'emblème de la Nouvelle-Zélande et figure sur le maillot des All Blacks. Car cette plante possède le pouvoir d'éloigner démons et forces maléfiques. Symbole de mémoire chez les Celtes, elle est réputée porter bonheur au Moyen-Âge. Pour vous en convaincre, écoutons en guise de conclusion les conseils de Hildegard de Bingen écrits au XIIe siècle pour vous assurer la meilleure des protections grâce à la fougère. La fougère est tout à fait chaude et sèche et contient assez peu de sucre. Mais elle a beaucoup de vertus analogues à celles du soleil. En effet, de même que le soleil illumine ce qui est obscur, de même elle met en fuite des apparitions fantastiques, et c'est pourquoi les esprits malins la détestent. Dans les lieux où elle pousse, le diable exerce rarement ses sortilèges, et elle évite et fuit les maisons, et les lieux où se trouve le diable. Là où elle pousse, la foudre, le tonnerre tombe rarement, et la grêle tombe rarement dans les champs où elle pousse. L'homme qui en porte sur lui évite les sortilèges, et les incantations des démons, ainsi que les paroles et autres visions diaboliques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter et réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission. Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Moi et Christelle et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous pour découvrir une nouvelle plante.
Radio G. www.radio-g.fr